Bulle noire.
T'as bien capté, bulle noire. Sur Libertaire, Radio Libertaire, on va parler de polar. Sur Libertaire, Radio Libertaire,
de 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Sur Libertaire.
T'as bien capté, bulle noire, sur Libertaire, Radio Libertaire, on va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4 heures,
baby,
faut pas tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté, bulle noire, sur Libertaire,
Radio Libertaire,
on va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby,
mais bien sûr tu es sur 89.4.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté.
Radio Liberté. Radio Liberté sur 89.4.
Bulle noire présente Vinaigrette et le réveillon des chiens. Un feuilleton en radiomédie musicale. Résumé des épisodes précédents. Nous avions abandonné le fakir Burma au fond d'une geôle pour robots. Elle avait convoqué le périsprit indien. Périsprit indien. Coup de mort. Bref, elle avait supplié le détective des ténèbres de venir la délivrer et, miraculeusement, ce fameux détective est intervenu pour la remonter du cul de basse fosse dans lequel elle était coincée avec Madame Egarf. Bien sûr.
Par la puissance du périsprit indien, le fakir Burma et le détective des ténèbres se retrouvent enfin.
Et le fakir aurait perdu de son charme.
Oh, vil flatteur.
Ah, ça.
Hé, il y a quelqu'un.
Ah, pauvre sot.
Où se cache-t-on ? Je vous présente Madame Egarf. Elle travaille, ou plutôt, elle travaillait pour le sinistre Freakout. Si j'en crois mes informations, elle avait pour mission comment s'appelle-t-elle déjà ?
Vinaigrette Bitounet, une jeune humaine. Egarf voulait l'envoyer commettre un crime dont le fakir Burma soupçonne la nature.
Vous soupçonnez.
qu'est-ce qui vous arrive, détective? Vous faites un blocage in vitro? Un AVC? Une sortie prosencéphale?
Tu vas bien, Fakir, c'est juste le mot soupçon. Le soupçon m'est étranger, voyez-vous. Moi, il y a l'épreuve, et encore l'épreuve.
Le détective des ténèbres et le Fakir Burma peuvent lors de concert faire remonter à la surface de leur réalité l'épreuve profondément enfouie dans la mémoire discale vive de Madame Egarf.
Pauvre sotte! Je vous ai déjà dit que vous ne tirerez rien de moi.
Il y a le deuxième quelqu'un qui parle.
Egarf, est-il exact que vous connaissiez le père de la jeune vinaigrette bitounée?
Quoi? Ah, n'importe quoi. D'où tirez-vous cette information?
Ah, ça.
Mais très fort, détective des ténèbres. Je suivais la même piste. La jeune vinaigrette bitounée aurait trouvé cet emploi aux pompes funèbres Hérisson, car son père connaissait Simone Egarf.
C'est vous que le dites.
Mais ça y est, que son nom soit révélé. Lorsque Burma a introspectionné la jeune vinaigrette, un nom est apparu.
Celui d'Asimov Bitounet, je présume. Le père de vinaigrette.
Asimov Bitounet, oui. Le grand maître des robots. Créateur de la dernière génération, avec son frère jumeau, Van Vogue Bitounet. Van Vogue, mais qui est également le prénom de... Freak Out! Van Vogue Freak Out! L'oncle de Vinaigrette Bitounet.
Bravo, détective des ténèbres. Vous m'entendez correctement, n'est-ce pas? Alors, soyez attentifs. Vous effleuriez la vérité, je vous félicite. Hélas pour vous, voici à présent confortablement installé dans une invention romanesque largement mise en scène par les auteurs de romans de science-fiction. Une machine qui à présent existe. Mais oui, je l'ai inventée.
Une machine à explorer le temps, je présume. Sacré Van Vogue Freak Out, il est fascinant tout de même.
Par la puissance du périsprit, ça traînait dans les visions du Fakir Burma depuis bien longtemps. Une machine à voyager dans le temps, mais ça paraissait tellement... tellement... romantique.
Tant mieux si vous le prenez comme ça, ma chère. Avec votre ami le détective des ténèbres, vous n'aurez plus à intriguer pour me nuire, et c'est bien le principal. Je vais vous expédier ailleurs. Voyons, j'hésite.
Mais, maître, pourquoi moi? Pourquoi me faire voyager avec ces deux sots?
Vous le comprendrez bien assez tôt, Madame Egarf.
Je suis ravie de voyager dans le temps avec vous, détective. Nous allons... Par exemple, imaginez que nous nous retrouvions à l'époque de...
La deuxième guerre des six.
1849, c'est pas neuf.
La révolte des cipayes.
1857, belle année.
Gandhi est sur la paille.
C'était en 1942, en effet.
La chasse aux Britanniques.
C'est pas ce que je préfère. Le temps des pharaons.
Ah oui, les Nefertiti.
Le codex aztèque.
Oui, c'est amusant.
L'empire des Arras.
Les sacrés combattants.
Pour voir Christophe Colomb.
Lequel des trois vaisseaux? Mais pourquoi dois-je donc voyager avec ces deux sceaux? Moi qui suis la plus impitoyable des robots.
plus en studio.
Oh, ça serait rigolo, oui. Pour rencontrer Mozart.
Ça me ferait tout bizarre. Croiser Napoléon.
Oui, mais pas en Russie. Au voir Marie Curie.
C'est un peu radioactif. Jeanne d'Arc et les Anglais.
Du Gémeaux. Le vase de Soissons.
Le vice platiné 1515 Marignan.
Oh, c'est un peu chiant. Allez, sur un dracard.
Les Vikings, y en a marre.
Mais pourquoi dois-je donc voyager avec ces deux sots? Moi qui suis la plus impitoyable des robots. Punition injuste ou sanction totalement idiote. Je n'ai pas fini de hurler, pauvre sotte.
Vous savez quoi, Fakir Dormin?
Oui. Nous allons bien nous amuser.
Y a quelqu'un? Détective des ténèbres! Vous êtes où?
C'était Vinaigrette et le réveillon des chiens. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'amour fait vite oublier les dangers que courent nos concitoyens. En l'occurrence, le Fakir Burma et le détective des ténèbres partent carrément en voyage de noces dans l'espace-temps. Et fuck Vinaigrette, mais bon, c'est leur affaire. Dans cet épisode, nous avons entendu la douce voix de Valérie Fréret, adorable Fakir Burma, Afra Valdor détestable Simone Garth, Robert de Terre. Et Jean-Luc Mollard joue remarquablement le docteur Cacheton.
Y a quelqu'un?
Y a quelqu'un ?
L'épisode est réalisé par Jean-Luc Mollard, les bruitages choisis par Jean-Pierre Dumontel, et la voix qui vous guide, c'est la mienne, Léonard Rateur, Top of the Pops. Ah, et la musique Mister Niet. À suivre.
Bulle noire, Radio Libertaire 89.4, nous sommes avec Loulou Robert qui vient de, enfin dont les éditions Gallimard viennent de publier Des Humaines. Bonjour Loulou.
Bonjour.
Fille de, ça c'est un mystère pour personne, on te la sort à chaque fois, non, fille de Denis Robert?
On la sort très souvent, bah, un peu moins.
Un peu moins, c'est
un
vrai?
Un peu moins maintenant, mais merci de me le
rappeler. Je le rappelle, oui, oui. Et c'est, on a des amis communs... Denis Robert et moi.
Ça ne m'étonne
et
pas.
Et des gens que tu connais, en fait, en plus. Mais je t'en parlerai hors antenne parce que ça n'intéresse pas forcément. Les auditeurs de Bulle Noire, avant de parler de ce sixième roman, c'est ça? Sixième. Quand je dis roman, mais en fait, c'est sixième. On devrait dire sixième c'est livre.
Sixième mais, livre mais et cinquième roman.
Cinquième roman, parce qu'en voilà, fait, il y a des récits.
Il y a eu un récit,
dans ta création. Ah, ouais. Alors, raconte-moi un peu, et raconte aux auditeurs de Bulle Noire le démarrage de la carrière de la jeune Loulou Monté, née à Metz.
Née à Metz, un grand test, ouais.
Très rapidement, tu décides de... de quitter Metz, d'aller vivre à Paris. Ça se passe comment le...
Oui, très rapidement. Le Grand Est, c'est pas mal, pas dans ce livre-là, mais dans mes autres, c'est assez présent, mes racines, quand même, dans mes livres. C'est une région, mis à part ma famille que j'aime, que je n'aime pas beaucoup, par contre, la région. Je suis pas. Et j'ai eu un peu une adolescence compliquée là-bas et je me suis barrée dès que j'ai pu.
Bon, t'es née en 92, hein, il faut le dire.
92, ouais.
En décembre.
11 décembre 92, si tu veux être.
Ouais, je sais.
Exact. Oui, 11 décembre 92 à Metz. Tu veux la clinique ? Non, ça va.
Mais je la connais, la clinique en plus.
Oui, c'est
la
petite
clinique là, qui est juste à côté de la boulangerie.
Sûr, Donc j'ai quitté Metz à 17 ans pour Paris sans trop savoir ce que j'allais faire et devenir. Je suis devenue mannequin.
Mais tes parents voulaient a priori que tu fasses Sciences Po, que tu fasses des études.
Oui, j'étais très scolaire. J'étais sans me vanter ou j'étais plutôt bonne à l'école quoi. J'étais très bonne élève. Très angoissée avec tout ça, mais ça, le système scolaire me rendait pas heureuse, au contraire, ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Donc c'était parti pour une prépa, après on s'est dit Sciences Po, puis petit à petit j'ai réussi à négocier une double licence à la Sorbonne que j'ai rapidement arrêtée parce que je trouvais pas de sens à tout ça à Paris.
Donc là, tes parents avaient dit, ok, va faire tes études à Paris, on va te payer un petit studio ou on va te louer un petit
bourse,
studio.
On t'aide.
Ouais, on va t'aider et puis tu fais tes études.
Voilà, tu fais tes études. C'était une double licence de sciences politiques et de philosophie à la Sorbonne. Et c'était un peu un compromis. Ça a été très dur pour le coup de quitter ma famille. J'ai ce souvenir de partir avec ma mère dans la camionnette. La camionnette pleine de meubles et de voir mon petit frère derrière, ma sœur, mon père. Et j'arrive à Paris. Et là, pour la première fois de ma vie, je me retrouve seule avec mon livre, comme tous les... J'en parle dans mon troisième roman, dans Sujet inconnu, de ce moment-là où on peut faire ce qu'on veut, quoi. Et donc, je commence la Sorbonne, je suis à Tolbiac, donc ça ne vend pas du rêve, hein, c'est la grande tour. Et très rapidement, en fait, je ne trouve pas de sens à tout ça. Je change plusieurs fois de filière, je suis complètement paumée. Et c'est là que je commence le mannequinat, parce que je voulais gagner de l'argent, je me suis dit naïvement que... ça allait être plus simple d'être mannequin que serveuse.
Mais comment ça se passe? Parce que, en fait, pour les auditeurs de Radio Libertaire, on comprend pas forcément le système. C'est-à-dire, il y a pas un mec dans la rue qui t'arrête ou quelqu'un d'agence qui te dit.
Si,
ah,
ça peut.
Comme ça.
Ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune, quand j'avais 16 ans, j'avais été repérée, mais là, c'était pas possible. Je voulais pas. J'étais trop justement dans les études et. J'ai toqué à la porte de deux agences, j'étais prise dans une, et c'est comme
ça. C'est-à-dire qu'autour de toi, on disait quand même, ah ouais, non, mais t'as une taille mannequin, t'es, t'avais quelque chose qui pouvait intéresser.
Je me suis dit que j'allais essayer, et j'étais tellement perdue dans mes trucs, que je me suis dit, je vais tester, je continuais la fac à côté, je me suis dit, c'est un bon moyen, et puis, très rapidement, en fait, j'ai fait que ça, j'ai arrêté la fac.
Est-ce que c'est principalement parce que ça te rapportait tout d'un coup un peu d'argent aussi rapidement en posant
Me rapportait pas beaucoup d'argent au début, mais ça m'apportait un peu d'argent, donc j'étais pour la première fois indépendante, donc ça c'était quand même quelque chose de chouette, c'était important, et il y avait quelque chose de concret, il y avait quelque chose donc je sais pas, ça m'a apporté. Je pense que j'ai fait du mannequinat pour les mauvaises raisons, quoi. Aussi, c'était.
Cependant, c'est ce que t'as raconté d'ailleurs dans un de tes bouquins qui s'appelle Zone Grise. La première expérience, le premier truc qui t'arrive, c'est quand même dans ce milieu-là. Bon, ça, quand tu racontes l'histoire, c'est choquant parce que. parce qu'il y a quand même une organisation, je trouve. Dans Zone Grise, ce que tu racontes, c'est le viol que tu as subi.
Mon premier shooting.
Et en fait, quand tu racontes ce premier shooting, tu vas chez un photographe qui est assez connu et qui... D'abord, il y a un premier truc que je trouvais assez étonnant, c'est que l'agence te laisse partir seule.
Or,
en lisant ton histoire, et en tout cas telle que tu racontes l'histoire, on imagine très aisément que tout le monde est au courant du fonctionnement de ce mec-là.
Mm-hmm. Bah, l'agence est coupable aussi, et complice. Donc, l'agence m'envoie là-bas, premier casting, toute seule. Bon, je vais pas refaire l'histoire, hein, j'en parle dans Zone Grise, mais...
Pour faire un raccourci, le
premier casting se passe déjà pas très bien, mais je me dis ok, c'est ça, c'est normal qu'on me mette nue, qu'on me touche, qu'on m'ausculte un peu. Et après il y a le casting se passe entre guillemets. Enfin, je suis confirmée pour le job et je pars seule avec ce photographe sur un week-end. Donc mes agents me laissent partir seule avec lui, sachant la réputation qu'il avait. Et c'est un shooting de nu en plus. Donc, quand c'est ton premier shooting, puis quand t'es toute jeune, la nudité, enfin, c'est des mots, ça n'a pas de réalité. Et bon, bah, là, la réalité, voilà. Et je l'ai compris. Enfin, je l'ai compris, non, parce que sur le moment, même pas, c'est bien après que j'ai compris ce qui m'est arrivé. Et donc, oui, mon premier job dans le mannequinat a été un. Ouais. C'est combiné à un viol, je sais pas comment le dire, ou à plusieurs viols. Et c'est ce shooting-là qui a lancé ma carrière. Donc c'est ça qui a un peu, j'en parle dans Zone Grise, mais c'est à partir de ces photos-là que j'ai été repérée après par le Vogue et que grâce à ça que je suis partie, ça fait bizarre de le dire, que je suis partie aux États-Unis parce que j'ai été en exclusivité avec des gros photographes là-bas. Donc, voilà. Mais tout ça, je l'avais vraiment mis sous. Enfin, voilà, quand on parle de traumatisme, de mémoire traumatique, voilà, je l'ai vraiment amnésié. Tout ça m'est revenu en 2017-2018. Donc, bien après les faits, quoi. Et l'écriture de Zone Grise m'a vraiment aidée à comprendre, à mettre des mots et à relier, essayer de comprendre pourquoi j'avais pas su dire non. Et puis, comment j'en étais arrivée là et comment on en arrive là, en fait. Voilà, donc ça, c'est mon Zone Grise, mon cinquième livre, qui est mon premier récit.
Oui. Bon, où tu racontes d'ailleurs parfaitement ma histoire de viol, parce que les gens comprennent, peuvent pas comprendre forcément, mais pourquoi, mais elle revient, etc. Mais en fait, on met jamais en cause le violeur, on met toujours en cause la violée dans ces cas-là. C'est un peu ahurissant. Et j'espère que les choses vont changer. Peut-être que les choses vont changer.
On l'espère tous, mais en tout cas, je l'espère. On est nombreux et nombreuses à l'espérer. Ouais.
Bah oui, parce que ce principe qui consiste à surtout la femme est un objet, donc on y va, on la photographie, on la saute. On la viole. Il y a d'ailleurs sur le terme zone grise, tu as toi-même une réflexion sur ce titre de bouquin, Zone Grise, où j'avais l'impression que tu disais, oui, mais ça dédouane un petit peu le violeur, de parler de Zone Grise.
Bah, Zone Grise, c'est un terme, alors déjà que j'emploie à la fin du livre, en fait, alors que le livre s'appelle Zone Grise, parce que je comprends, en fait, je ne savais pas ce que c'était la Zone Grise. Moi, je comprends, parce que le livre aussi retrace, il y a tout le travail sur la mémoire, comment tout ça m'est revenu, et donc, en fait, comment tout ça me revient, c'est. Bon, c'est après avoir vu l'adaptation du livre de Fly Flamand sur son viol à la télé, comment il s'appelle de David Hamilton, je le vois à la télé et là mon corps se reconnecte, je comprends ce qui m'est arrivé, je passe un an à mettre des mots, à oser dire le mot viol, à tout ça. Et je fais une interview pour l'émission sur la 2 avec Léa Salamé qui s'appelait Stupéfiant. Et le journaliste, en fait, qui était qui me demande comment s'est passé mon premier casting, je lui raconte. Il sait avec quel photographe c'est. Et là, il arrête le micro et il me dit, tu sais qu'il travaille toujours, il vient de shooter une campagne pour Dior. Voilà, est-ce que tu veux témoigner? Enfin, le truc de prendre une autre ampleur, alors qu'à la base, je parlais juste de mon deuxième, du mannequinat, de la nudité, enfin, ça n'avait rien à voir. Et je dis ok, ok. Et dans son interview, il me demande, est-ce que tu penses t'être retrouvé dans cette zone grise? Et là, je le regarde et je lui dis, mais c'est quoi la zone grise? Et là, on me dit, ah ben, c'est quand on dit pas oui, on dit pas non, c'est dans le flou. Et je fais, pendant un temps, je me suis dit, ah oui, ok, c'est ça, c'est ça. Et en fait, quand même, tout un parcours, enfin, un chemin se fait dans mon esprit, et notamment pendant l'écriture de ce livre où ça prend encore plus de sens, mais je me dis, mais non, en fait, j'étais absolument pas dans la zone grise. Alors oui, pour moi, les signaux étaient brouillés, parce qu'il m'a emmené à un endroit où je pensais que c'était pas possible de s'en sortir, je pensais que le non n'était pas possible, permis, mais lui, il savait très bien ce qu'il faisait. Donc, dans son sens à lui, ce n'était absolument pas gris. Donc, oui, la zone grise, c'est un terme qui est, je cherche plutôt à la désinguer qu'à la. Voilà, c'est un terme qui est dangereux parce qu'il dédouane le violeur, il empêche. Voilà, il annule le mot viol, en fait, qui est dans les faits, si on, quand même. Non, c'est un viol, c'est pas.
Bah oui, d'autant que le type profite d'une situation, d'une
position. Oui, voilà, le viol n'est pas grillé, voilà. Le sperme n'est pas grillé, le sang n'est pas grillé, voilà, la douleur n'est pas grise. Donc voilà, c'est un terme qui est assez dangereux, et que c'est pour ça que voilà. Ouais.
Bon, alors ça, c'était zone grise, mais dans le fond, c'est pas ton premier roman, enfin, c'est pas ton premier bouquin qui paraît. Et justement, le premier, c'est Bianca. Raconte-nous comment c'est arrivé l'écriture de Bianca, parce que on se dit, attends, c'est marrant, cette nana, elle est mannequin, elle pose pour, elle fait les couvertures de Vogue, tout un tas de revues comme ça internationales ou françaises. Elle va à New York, elle a une vie de mannequin, tout simplement. Et comment t'en arrives à l'écriture? Quand t'étais petite, déjà, t'écrivais ou
pas du
t'avais
tout.
Un rapport à l'écriture?
Non, j'avais pas de rapport à l'écriture. J'avais pas de rapport à l'écriture du tout. Non. Ça, c'est... J'ai jamais voulu écrire, en fait.
Bah alors, le récit Bianca qui raconte un petit peu une période où, où tu te retrouves
c'est
en...
Une, dans, c'est pas jeu, c'est... Pour le coup, c'est inspiré, mais c'est Bianca qui c'est une sorte de double fictif. Mais donc, ouais, comment... Donc déjà, sur le mannequinat... comme tu l'en as parlé un peu avant de Zone Grise, la vie que j'avais de mannequin n'était absolument pas merveilleuse, quoi. Donc oui, je bossais... on va dire un mois dans l'année, le reste du temps c'était de l'errance, et j'avais ce fond en moi qui était extrêmement mélancolique, parler même dépressif, enfin il y avait quelque chose voilà de très douloureux, donc le mannequinat n'était absolument pas, et on imagine toujours le côté paillette et tout, alors que la réalité était extrêmement voilà, j'étais complètement désœuvrée dans cet univers là, et je à la fin en fait je quitte New York parce que j'avais plus d'argent du tout, en fait. Je gagnais plus ma vie, ça marchait plus. Je sortais d'une rupture, enfin bref, toute ma vie. Et j'avais, ça ne marchait plus, le mannequinat. Donc en fait, même j'avais beau avoir fait des trucs cool, c'est comme ça aussi. À un moment, on te zappe et voilà. Donc je reviens en France et à Paris et je fais un rêve. Ça commence comme ça, Bianca. Je fais un rêve et en fait, je me réveille pendant la nuit et j'écris les premières lignes de Bianca. Donc je m'appelle Bianca. Voilà. C'est vraiment comme ça, je m'envoie un mail. Enfin, et au réveil, je prends mon ordinateur et je commence à écrire. Tout connement. Enfin, c'est vraiment tout connement. Et là, en fait, dès l'instant où je me suis mise à écrire, j'ai compris que ça allait être ça. En fait, pour la première fois, je me suis sentie enfin. Il y avait enfin quelque chose qui me rendait vivante, quoi, qui me faisait me sentir vivante et qui me stimulait, et qui me. J'avais de l'air, j'avais. Alors, je sais même pas si je peux parler de joie, c'est plus fort que de la joie quand j'écris. C'est ouais, et donc tout a pris un sens en fait, et je me suis dit ouais, en fait c'est ça
que je veux
c'est
faire.
Ça, c'est pour ça que j'ai voilà toute c'est ma ça. Vie c'est ça
c'est pour ça que je suis sur cette terre. Mais alors dis-moi Bianca, tu termines le bouquin, tu le termines en combien de temps?
Bianca, je l'ai écrit assez rapidement. Donc Bianca, c'est l'histoire d'une jeune qui est internée en unité psy. Moi-même, quand j'ai été ado, j'ai été internée plusieurs reprises en psy. Mais j'ai créé ce personnage, je crée pour le coup tout le monde autour, parce que si j'avais vraiment raconté ce qui m'est arrivé en psychiatrie, le livre aurait été très chiant et qu'il se passait rien. Là, j'invente un monde, j'invente des histoires d'amitié, d'amour, je me crée ces personnages, Simon, Jeff, tout ça. Et vraiment, donc c'est important, c'est vraiment un roman. Alors oui, le mal-être adolescent. Là, pour le coup, oui, la vérité du ventre est là, mais c'est un roman. Et oui, je l'écris assez vite, en fait. C'est jailli, en fait. Je l'écris en un mois et demi, ouais, un mois. Bon, bah, en passant mes journées au café.
Le manuscrit, t'en fais quoi? Tu l'envoies... Là, tu vivais où à ce moment-là? À Paris ou à New York?
À Paris, chez un mec qui m'a inspiré mon troisième roman. une autre histoire, mais je voilà.
Donc là, tu l'écris, mais une fois que t'as terminé le manuscrit...
Je l'envoie à Bernard Varro. Il n'est pas terminé. Je l'envoie, il reste encore... Je l'envoie au bout de trois semaines.
Tu connaissais cette
personne? Alors, je connaissais... Oui, je le connaissais... comme tu l'as dit tout à l'heure, mon père, Robert... en fait, j'avais fait...
C'est-à-dire que tu avais dit à ton père, tiens,
comment ça s'est passé? Non, j'en parlais pas. C'est en fait, comment ça s'est passé, c'est que quand j'étais à la fac et qu'aussi j'étais complètement... Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je voyais bien que c'était pas la philo qui me... J'avais rencontré Bernard Barreau pour faire peut-être un stage dans l'édition. Et on avait déjeuné ensemble, mais j'avais trouvé ce monsieur qui avait aux éditions Julliard, donc Bernard Barreau. Et j'avais trouvé ce monsieur très... impressionnant, quoi. Et il y avait eu quelque chose, quoi. Un côté un peu waouh. Donc j'avais son mail. Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé Bianca. C'était comme ça. Et il m'a répondu. J'ai mis mon père au courant, évidemment. Hein, mais c'est pas comme c'est. Voilà. C'est parce que j'avais eu ce stage. Ce déjeuner avec lui pour faire un stage, je m'étais rendu compte que le métier d'éditrice me convenait absolument pas du tout. C'était pas ça, moi, c'était pas être de l'autre côté qui m'intéressait. Et donc je lui envoie, et il me répond, je m'en souviens très bien, très rapidement après, un long mail, très positif, où il me parle de mon livre, de mon texte, et je lui réponds, tout ça, ça veut dire que si je le finis, et que je retravaille, et que tu acceptes de me publier, il me répond, oui, bien sûr. Et voilà. Comment c'est parti, assez simplement.
Donc tu as terminé le bouquin, puisque tu l'as terminé. Et puis tu lui as envoyé et des corrections, un peu de travail sur le texte.
Ouais, mais pas tant que ça. C'était Bianca, ça a été assez brut quand même.
Et alors c'est publié, mais tu dois être assez soit surpris, soit non. Mais en fait, c'est la couverture médiatique qui accompagne la sortie de Bianca. Elle est pas anodine, franchement.
Non, elle est importante, ouais. Ça a été... je m'attendais à rien, en fait, vu que je savais pas...
J'imagine, parce que tu sors un premier bouquin, tout le monde, il y a 40 bouquins qui sortent par semaine, et même à l'époque, il sort en 2017, ton bouquin?
Non, il sort en 2016.
2016
février 2016.
Il sort en 2016, il y a quand même beaucoup de bouquins qui sortent chaque semaine, que ça tombe et que...
je pense qu'il y a à côté... premier roman, il y a le sujet, le mal-être adolescent, il y a je l'espère, j'aimerais que ça soit la première raison, mais la force du livre et la puissance de Bianca quand même, mais il y a le côté fideux, je suis honnête, je vais pas, il y a le côté à la mannequin qui se met à écrire, tout ça, donc en fait les médias, c'était un peu facile en fait de parler de ça.
Quand tu commençais, quand tu faisais des télés, etc., est-ce que tu avais le sentiment qu'il y avait une espèce de condescendance vis-à-vis de toi parce que tu étais le mannequin qui écrit des bouquins?
Non, j'ai quand même plutôt eu de la chance. Sur Bianca, c'était quand même plutôt bienveillant. Sur Bianca, c'était quand même plutôt bienveillant. Et après, moi, je suis très très sereine avec ça. En fait, si les gens ont envie d'être méchants ou condescendants, c'est eux qui passent pour moi, qui passent pour des cons. Parce que moi, dans le truc, je suis quand même très honnête et très vraie dans mon rapport à l'écriture et sur ce que j'écris. Donc, si les gens ont envie... Mais j'ai eu plutôt de la chance, là. Je réfléchis, à part peut-être à quelques exceptions près, où il y a eu quand même quelques petits couacs. Les gens étaient quand même plutôt gentils.
Mais quand même, tu avais une super attachée de presse parce que tu te retrouves, tu fais la grande librairie, tu fais Ruquier, tu fais quand même que des gros machins pour ce premier bouquin.
Oui, j'avais vu des gros machins. Oui, mais j'y suis allée très souvent. Mais du coup, c'est l'après qui a été dur parce que pour le deuxième, c'est pas passé comme ça. Donc ça, c'est on s'attend et j'étais prête, j'avais arrêté tout.
Ouais, je vais tout casser, les gars.
Et il s'est rien passé. Donc, c'est le deuxième est un peu violent dans le sens-là.
Bon, on va en parler de la suite des opérations. On va faire une pause musicale. je me suis pas embêté pour la première pause. J'ai pris dans Des Humaines, ton dernier roman publié chez Gallimard. Je me suis dit, tiens, elle écoute Chaka Punk. En tout cas, j'écoute ton personnage carrément. Écoute
j'écoute
ça.
J'écoute aussi Chaka Punk.
D'accord.
J'étais le voir en concert dernièrement.
Bon, voilà, on va écouter Chaka Punk.
Allez, grave.
Radio Liberté 89.4 avec Loulou Robert qui vient de publier Des Humaines aux éditions Gallimard, son sixième roman récit. On en parlait juste avant cette pause musicale, c'était Chaka Punk, Stop the Bot, qui est un titre qui est présent dans Des Humaines. On en était au second bouquin, tu disais, après Bianca, ou sur le plan, en tout cas des médias, ça avait cartonné. Le second, ça n'a pas été la même Camomille.
Non, ça n'a pas.
Alors
été...
que tu t'attendais à casser la baraque.
Bah forcément, bah comme j'avais aucune expérience moi avant ça, donc le premier, ça.
D'ailleurs, ça... l'écriture du deuxième, c'est arrivé très rapidement.
L'écriture du deuxième
a assez
été
à l'aise pour
être. Été très dur. Ça a été très dur. L'écriture du deuxième, c'est. Si je réfléchis, c'est presque le. Le livre ouais, où j'ai le plus galéré. Enfin, je dis ça, je dis pas, parce que non, j'ai eu 3 ans de. Enfin, on en parlera après, mais oui, c'était dur. C'était dur. Ouais, c'était dur parce qu'en fait, je pense que Bianca, c'était tellement facile de le sortir. Ça a tellement jailli. Hope, donc mon deuxième, qui est la suite de Bianca, qui se
passe en 2017.
Ouais, qui se passe à New York, du coup. au niveau de la... Ouais, j'ai quand même plus galéré. Il a fallu plus de retravail. J'ai effacé beaucoup, en fait, à un moment. En fait, je me suis rendu compte que le livre était nul. Donc, je l'avais fait lire et ça avait été très douloureux à des proches qui m'avaient dit... Ah. Et là, ça a été violent. Donc, j'ai quasiment tout effacé. Et je suis repartie. Et après, ça a été. Mais donc, oui, la sortie, par contre, ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à plus, quoi. Mais c'est, forcément, quand, oui, le premier a eu ce succès-là médiatique, parce que c'était plus médiatique qu'en librairie, parce que je pense que pour qu'un livre marche, enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait les deux, il faut qu'il y ait aussi l'amour des libraires et moi, c'était plus, voilà, j'avais une couverture médiatique importante, mais le libraire ne me connaissait pas.
J'ai pas
fait de rencontres en librairie.
Et pour quelle raison tu n'as pas fait les rencontres en librairie?
Je sais pas.
Parce que ton éditeur a estimé que ta seule présence dans les médias suffisait
avant. Je sais pas si c'est la faute à mon éditeur, c'est pas la faute à mon éditeur, c'est que ça s'est passé comme ça. Peut-être que. Une quelle couverture médiatique. Puis le côté, la double étiquette, mannequin qui écrit, fille d'eux. Et c'est un milieu très snob aussi. Donc peut-être que j'ai agacé aussi pas mal de monde, je pense à tort, parce qu'au final, j'étais pas pour grand-chose. Mais non. Puis j'étais pas, voilà, on me connaissait pas, je débarquais, quoi. Donc non, en fait, j'ai pas. J'ai fait zéro rencontre en librairie pour Bianca, quand même. Hein. Donc c'est quand même un petit truc important. Salon, j'ai fait mon premier salon en août 2016. Donc c'est mon premier salon, le premier salon que j'ai fait. Donc j'en ai fait un petit peu pour Bianca, mais pas trop, non. Et j'ai découvert ça après, les salons, les rencontres. Mais donc non, le deuxième, Hope, ça n'a pas été la même. Donc ça a été un peu un choc. Je suis tombée un peu de... D'ailleurs, dans Hope, il y a un personnage qui se suicide du haut d'une tour. Et je ne me suis pas suicidée. Hein, mais c'est un peu ça, l'image de genre... J'ai chuté de haut, quoi. Et je me suis dit, ah, ok. Mais c'est peut-être une bonne chose, parce que j'ai capté en fait qu'en fait, oui, c'était plutôt ça la norme, en fait, c'est qu'il se passe pas...
Ouais, que c'est pas à chaque fois la même...
Non, ça serait bien, mais non, en fait, j'ai compris.
Le bouquin suivant, à part le recueil de nouvelles...
Mais ça c'est... Oui, ça, du coup, j'en écris...
Mais ça, c'est
un peu à part.
Un peu à part, le recueil de nouvelles. Après, en 2018, tu sors Sujet inconnu, où tu mets en scène... une relation un peu d'amour fou, un peu toxique.
Un peu beaucoup toxique, quoi.
Oui. Est-ce que, dans le fond, t'as quand même. Tu développes, t'as le sentiment de développer un peu les. Quand même, il y a des choses récurrentes dans tes romans.
En fait.
L'amour toxique, pas forcément toxique. Dans Des Humaines, c'est pas forcément toxique, mais c'est une espèce d'amour fou, de truc absolu, de soif d'absolu
Dans ma relation amoureuse, dans la relation surtout dans Des Humaines, aussi aux animaux, hein, mais. Soif d'absolu, oui, ça c'est moi, ça. Mais. Jusqu'à Des Humaines, en fait, jusqu'à Zone Grise, plutôt. Comment j'écrivais, c'est-à-dire qu'il m'arrivait des choses. Ces choses, après, je les sublimais. Et ça devenait, je faisais avec de la merde, on va dire, avec des merdes, avec des traumas, avec. Je faisais je mets des guillemets, beau, des livres. C'est ce que je dis à un moment. Je le dis dans Zone Grise, je dis, j'ai été internée en psychiatrie pour écrire Bianca, j'ai vécu l'errance à New York. Et le mannequinat pour écrire Hope, j'ai vécu un amour violent et toxique pour écrire Sujet inconnu. J'ai une mère qui a voué sa vie à aimer.
Ça, c'était Je l'aime.
Je l'aime. Ouais. J'ai été violée pour écrire Zone grise. Ça fait un peu bizarre de dire comme ça. Voilà, donc, jusque-là, il y avait un côté. Il m'arrivait des choses et ces choses donnaient des livres. Et après Zone grise, j'ai eu 3 ans de pause où je n'arrivais plus à écrire une ligne. En fait, il y avait plus rien, quoi. J'étais à sec. Et c'est là que j'ai dû aller chercher ailleurs, en fait, que en moi. Même si le point de départ du livre, ça démarre vraiment, on a l'impression que ça commence comme une autofiction. Et après, en fait, non. C'est la première fois, en fait, où je vais vraiment dans dans la fiction pure, quoi, dans le, je dépasse les limites, quoi, et je vais ailleurs. Mais jusque là, c'était voilà, j'avais un espèce de truc où j'écrivais, je savais, c'est, l'écriture pour moi c'est quelque chose d'absolument vital et nécessaire. Ça ne change pas. Quand j'écris pas, je trouve pas de sens. C'est le seul truc qui donne du sens en fait à ma vie. Donc voilà, ça c'est quand même le mais après Zone Grise, ben c'est comme si j'avais bouclé un, voilà, un truc, j'ai fermé quelque chose, quoi.
Ben alors, il y a un truc quand même par rapport à Je l'aime, puisque tu as raconté la jeunesse de Je l'aime. Tu fêtes les 60 ans de ton père, il y a machin, la fête, enfin j'imagine. Mmh. Hein, et puis après, il se livre un peu à toi, il raconte sa vie, blabla. Et puis derrière, bon, toi tu l'écoutes un petit peu scotché, et derrière, ta mère fait pareil, elle raconte sa vie. Et je me suis dit, finalement, par rapport à ce que tu as vécu avec ton père, tu aurais pu aussi raconter des trucs, pardonne-moi, plus des trucs que tu as vécu quand tu étais petite, avec les histoires de Clearstream de ton père, qui étaient assez violentes.
Ouais, bien sûr. Après, encore une fois, c'est des romans, et ils me viennent, en fait, à un moment, ça me tombe. Je décide pas d'écrire sur mon... Le seul livre que j'ai vraiment décidé d'écrire, et que ça a été une décision que j'ai prise mûrement, voilà, que j'ai réfléchi, c'était Zone Grise, où j'ai décidé de combattre quelque chose. Jusque-là, non, en fait, ça m'arrive, en fait, ça sort, c'est prêt.
Mais c'est les trucs qui t'arrivent au moment...
Et
c'est
comme si ça sortait de mon ventre, voilà, mais je décide pas de les écrire, je me dis pas, tiens, je vais écrire sur la relation d'amour toxique que j'ai vécue. À un moment, en fait, souvent, ça part de rêve, ou là pour Je l'aime, c'était, oui, il y avait ce truc où je regarde et tout, et après je suis dans le train et j'entends une voix, et je vois une femme qui n'est pas ma mère. Ce n'est pas ma mère, c'est inspiré, cet amour, cette colère, cette rage est inspiré de ma mère, mais c'est pas ma mère, pour le coup, vraiment pas. Pour tous ceux qui ont lu Je l'aime, non, ce n'est pas ma mère. Mais c'est inspiré, voilà, cette besoin d'absolu, voilà, tout ça. Et je suis dans le TGV, je vois une femme qui coupe des légumes, c'était après le week-end avec mes parents, voilà, et tout petit à petit, tout s'installe, et je pense que... voilà, chez moi, comme chez beaucoup d'écrivains, je pense que c'est un mélange de plein de choses, mais moi, je décide pas, je me dis pas, je vais écrire sur ça. J'écris. Et après, je capte que ça parle de ça, en fait. Mais donc, non, je n'ai pas l'intention d'écrire sur mes traumatismes, enfin, d'enfance. Avec,
enfin, peut-être que ça arrivera, justement.
Peut-être que ça arrivera, peut-être
pas. Un moment
dans
ta vie où tu diras... parce que j'imagine que quand la petite Loulou Robert voyait les huissiers débarquer et tout défoncer chez elle...
C'était pas chouette, non.
Ça devait être un petit peu...
un peu traumatisant, ouais.
C'est un trauma, en tout cas, que tu as, pour l'instant, que tu as mis derrière, pas, voilà. Et tu vas pas aborder.
Ben non, bah après, il y a mes romans, puis il y a moi, le voilà.
Non, mais tu considères que tu as écrit un petit peu d'autofiction ou non, pas du tout? Parce que souvent, quand on te pose la question, justement, où tu poses au préalable un substrat assez autobiographique, après tu te défends en disant, mais évidemment que après quand on va parler des humaines, c'est pas ta vie et c'est pas autobiographique.
Heureusement,
le point de départ, il y a des éléments quand même qui restent autobiographiques.
Bien sûr, mais parce que je pars de moi, il y a énormément de moi dans mes livres, c'est clair. Après, on a toujours besoin de mettre des étiquettes, autofiction, noire, nanana, blabla, enfin bref, peu importe. Moi, oui, alors si on veut, qu'est-ce que ça veut dire autofiction? Si on définit autofiction, c'est quoi? Bianca, oui, il s'avère que oui, comme elle, j'ai été en unité psychiatrique, alors... mais est-ce qu'il m'est arrivé une seule chose qui lui est arrivée à elle? Non. Donc,
oui, après, tu inventes tous les personnages.
Voilà, donc après, la vérité des émotions, la vérité voilà, des sensations, tout ça, oui, ça, elle est vraie. Donc oui, celle-là, c'est ça, l'autofiction. Ok, dans ce cas, je fais de l'autofiction, oui. Mais oui, je m'en défends. Alors, à part pour Zone Grise ou non, clairement, c'est un récit, c'est... récit littéraire où le jeu c'est moi, dans tous mes autres livres, le jeu c'est pas moi, quoi. Même s'il y a une grande part de moi dans mes livres, évidemment.
Bon, alors, on va faire une pause musicale qui correspond d'ailleurs à peut-être la genèse des humaines, puisque en fait, t'as récupéré un chien.
Ouais.
Est-ce que c'est la base?
Alors, est-ce que c'est la base du livre?
Est-ce que c'est la
non,
base
la base, la base de Des Humaines, c'est arriver à Tours. Alors, je dis pas dans Des Humaines, c'est une ville à une heure de TGV de Paris, en province. Elle quitte Paris, elle adopte un chien, comme moi, oui. La chienne s'appelle Penny, ma chienne s'appelle Penny, donc là, voilà, ça c'est le point de départ.
Tu l'as appelée pas, pourquoi Penny Lane, c'est pour les Beatles.
Ou Penny, quand j'étais gamine, j'adorais ce prénom, je vais pas dire, c'est plutôt Penny de Bernard et Bianca, si je suis totalement honnête.
D'accord.
Ça fait beaucoup plus classe de dire les Beatles.
Je pensais que c'était Penny Lane, et en plus, ça me permettait
Je pourrais dire, je pourrais mentir. Ça
me permettait ma jonction avec les Beatles.
Donc c'est Penny Lane des Beatles.
C'était pas pour mettre du Penny Lane, c'était pour mettre un titre de Paul McCartney qui est, comme on le sait tous, enfin comme tout le monde
très
le
engagé,
après, très engagé pour la cause animale, vegan depuis des années. Un des grands titres de McCartney, c'est Martha My Dear, qui est un hommage à son chien. Donc si tu vois, c'était ça.
Le livre est quand même dédié à Erwan et Penny, donc Erwan qui est mon...
C'est ton mec.
Mon amoureux, et Penny qui est ma chienne.
Penny qui est ta chienne. Voilà. Oh, alors d'accord.
Donc ça marche.
Penny Lane, c'est pas Penny Lane.
Non, désolé.
Tu rajouteras comme en second prénom Lane à ton chien.
Non. Mais non, je suis pas une menteuse, j'ai dit.
Bon d'accord. Bon, on fait justement cette pause, et on va parler justement de Penny et de Des Humaines.
Ça marche.
Sur Radio Libertaire 89.4, la voix qui a dit « Je boirai du vin ce soir chez moi », c'est celle de Loulou Robert qui est venue nous voir dans les studios de Radio Libertaire pour nous parler de Des Humaines, son dernier roman publié aux éditions Gallimard. Le point de départ de Des Humaines, tu vas dire que c'est pas, on revient dessus, c'est pas tout à fait... ton engagement dans la cause végane, mais l'un des personnages que tu mets en scène dans Des Humaines, c'est quand même Penny, ta chienne.
Ouais. Non, mais le... Alors, comment... Comment, donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu 3 ans de pause avant d'écrire Des Humaines, où vraiment ça a été une errance. Je savais pas si j'allais réussir à me remettre à écrire un jour. Et pendant ces donc 3 années là, j'arrive du coup, je quitte Paris, il se passe quand même pas mal de choses. Je m'ennuie beaucoup. Je touche un peu le fond. J'ai adopté une chaîne qui me quand même me maintient un peu en vie. Mon amour pour elle, pour Penny, m'a quand même poussé à tenir le coup. Et oui, et pendant ces 3 années-là aussi, je deviens végétarienne. Et je commence, dès l'instant où je deviens végétarienne, je commence vraiment à m'intéresser à regarder les vidéos d'L214, à me renseigner vraiment sur ce qui se passe. Et ça m'obsède, en fait. Je deviens complètement obsédée par ça. Je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos, de documentaires, je lis, Et c'était assez insupportable. Donc ça fait partie, c'était en moi. Voilà, tout ça était en moi. Je fais un peu un travail sur moi aussi, où j'arrive un peu à calmer ma colère vis-à-vis des... Notamment, je vis avec quelqu'un qui mange de la viande, donc c'était un peu compliqué au début. Mais je me calme. et je commence à écrire... En fait, le point de départ de Des Humaines, c'est une jeune femme écrivaine qui n'arrive plus à écrire. Son mari vient de finir d'écrire son 10e roman. Et elle est là avec sa chienne, on sent que ça va pas trop, qu'il y a un petit grain de folie quand même, mais elle est là, elle coupe des légumes, elle va courir au bord de la Loire, elle boit du vin, voilà. Et puis petit à petit, ça commence à monter, quoi. Et là, les animaux aussi font... Ce personnage-là aussi est très 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 obsédé par la souffrance animale, par les animaux, par sa chienne, ce qui est son bébé, l'amour de... Voilà, son amour. Donc oui, ça a quand même un... Quand tu me demandais tout à l'heure si il y avait de moi dans mes livres, et si... Donc oui, là, il y a beaucoup de moi. C'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur. Et qui est très, très présent dans le livre. Ouais. C'est Des Humaines, ouais. D'ailleurs, le titre, Des Humaines, une femme qui se déshumanise, quoi, qui se rapproche peut-être des animaux, ou qui choisit un... Voilà, je sais pas.
Bon, le point de départ, donc, du bouquin, c'est que ton personnage se retrouve en province, alors que ça a l'air plutôt de l'emmerder de se retrouver en province, mais son mec, qu'elle appelle toujours mon mari... Bon, il y a un côté, c'est comme les gens, les femmes qui appellent leur mec, mon homme. Bon, toi, c'est ton personnage, répète, mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Bon, ça existe, hein, les femmes qui appellent non-stop mon mari. Et le mec, il se trouve qu'il est auteur comme elle, mais elle n'arrive plus à écrire, et alors que lui, il profite sans doute, c'est le moment du Covid, j'imagine, ou un truc comme ça, où le mec, il écrit, il sort son bouquin, il l'envoie à son éditeur. Bon, là, il y a une espèce de fantasme qu'ont beaucoup d'auteurs, et là, il se trouve qu'il y a quelques bouquins qui sont sorti là, chez différents éditeurs en l'espace de 2-3 mois, c'est pas nouveau, des auteurs qui mettent en scène des écrivains. Sébastien Rutès dans Le syndrome du cordonnier met en scène un écrivain. Olivier Bordassar sort aussi un bouquin qui met en scène un écrivain qui est mort, mais dont la femme retrouve des lettres. Mais à chaque fois, c'est quand un écrivain parle des écrivains, le rapport, les écrivains qui mettent en scène, c'est un peu sublimé. C'est-à-dire que ton mari, dans le bouquin, on sait qui est ton mari dans la vie, mais ton mari dans le bouquin, qui ressemble peu ou prou à ton mari dans la vie, c'est le mec qui vend 100 000 bouquins par à chaque fois qu'il sort un truc.
Bah, pas à chaque fois, non. C'est, il va connaître le succès justement avec celui-là.
Mais ton personnage, je veux dire, c'est déjà un auteur qui est un peu à succès, comme Sébastien Rutès, qui n'a pas le succès du personnage de l'auteur qui met en scène dans Le syndrome du cordonnier. Donc en fait, c'est assez rigolo. Est-ce que c'est parce que les auteurs fantasment le succès qu'ils devraient avoir?
Non. J'aimerais bien avoir le succès que Marie a dans le livre, mais...
oui, que ton mari a dans le livre, pas que toi, tu vois.
Mais enfin, ça arrive, en fait, mais dans le livre, en fait,
Dans le livre, lui, il sort son bouquin.
Il sort son bouquin, mais il change d'éditeur.
Il
n'y a rien.
Non, il envoie le bouquin, ça va pour lui. Et c'est tout de suite, ah bah c'est super, on va faire de la promo pour toi, on sort quand tu veux, merci. C'est comme si c'était un mec qui vendait que des best-sellers.
Ben, là, ça va être dans ma tête, en fait. Moi, comment je l'ai construit, c'était... c'est la première fois qu'il connaît un tel succès, quand même. Il change d'éditeur, il va chez un gros éditeur.
Bon.
Non, mais t'as une lecture. Je l'avais pas vu comme ça. En tout cas, moi, il s'avère que oui, dans la vie, ben, on a un couple d'écrivains aussi, et que ce dont je parle aussi dans le livre, c'est ce qu'elle a pu ressentir en fait. C'est ça qui était le point de départ quand même. C'est la jalousie, la colère que mon héroïne ressent et que j'ai pu ressentir aussi, faut être honnête, quand je voyais mon amoureux écrire et que moi je n'arrivais plus à écrire. Ça, c'était assez insupportable. Et c'est ça qui a déclenché l'envie d'écrire, c'est la rage. Et je me suis dit, bah, si on laisse, c'était les mauvais, je mets des guillemets, les mauvais sentiments, parce qu'il n'y a pas de mauvais sentiments, mais c'est l'envie, la jalousie, alors qu'on devrait souhaiter tout le meilleur à la personne avec qui on vit.
Oui. Le titre, c'est des humaines, mais en revanche, tout le début du bouquin, où c'est totalement humain pour le coup. Ok, tu l'aimes. Ok, c'est super pour lui qu'il réussisse. Mais en fait, comme toi-même, tu t'écris et que tu n'arrives pas à écrire, glandes, c'est hyper énervé.
Hyper douloureux.
Et en fait, le truc, en plus, le mec, évidemment, parce qu'on comprend, il te dit, viens, je vais aller à une écriture, je vais aller à une lecture, on va voir des libraires, enfin, tout le cinéma et tout le cirque de l'édition. Mais quand t'es exclu du cercle de l'édition, quand t'es juste une passagère, mais que tu n'es pas l'actrice du truc, évidemment, tout ce que tu décris est juste et c'est totalement humain pour le coup.
Oui, j'avais envie d'être totalement honnête là-dessus. Oui, quoi. Et ce qui l'a fait vraiment chier, c'est qu'en plus, elle va lire le texte et qu'elle va le trouver bon. Quoi. Ouais. Et donc, ça, c'est encore plus douloureux. Quoi. Elle aurait presque souhaité une partie d'elle aurait souhaité qu'il se plante. Quoi. Donc. Mais je pense qu'on a tous en nous des ces trucs là qu'on essaye de taire parce que c'est pas bien, que c'est et je me suis dit voilà, ça c'était le point de départ, c'est ok, si je laisse s'il n'y a plus de morale, si on enlève les barrières, les trucs, qu'est-ce qui se passe si on laisse parler ça. Et à la base, le livre s'appelait pas Des Humaines, il s'appelait Où leurs troubles, qui est l'anagramme de Lou Robert. Et c'était une autre version de moi-même, en fait. C'était la mauvaise, un peu comme mon double, pas maléfique, mais un peu... après, c'est devenu autre chose, parce que le livre est devenu autre chose et que je me suis quand même pas mal gommée. Le point de départ, c'était vraiment de se dire, ok, je vais laisser aller la jalousie, la colère, la folie, la colère vis-à-vis de la souffrance animale. Je vais laisser parler tout ça et je vais laisser monter et je vais voir où ça me mène. Quoi.
Très rapidement quand même, dès la page 35, tu mets une séquence qui est, où il y a ton mari, il est gentil comme tout, mais c'est un malade mental. Quoi. Dans le bouquin, hein, le mari... Bon, il y a le petit chien, il aboie. Bon, c'est un chat qui aboie. Il y a des chats qui aboient. Je sais pas pourquoi, il y a des chats qui aboient. Bon, alors, ta chienne, la Penny, elle n'arrête pas d'aboyer, puis elle aboie après un autre chien, etc. Et l'autre, ton mari, enfin le mari... Ce qui n'est pas ton mari, le mari de l'héroïne, il prend le lance-balle et il fracasse la gueule du chien. Il le tape à mort et tout. D'ailleurs... Tel que tu le décris, on a l'impression qu'il a tué le chien tellement il l'a frappé. Et puis finalement, après il pleure. Là, tout ce que tu décris sur l'action du mari sur le chien, c'est et après il pleurniche en disant « Oh non, j'ai pas fait exprès », etc. Ça fait vraiment les mecs qui frappent leur femme, quoi.
Ah ouais, ça fait penser à ça.
Ouais. Et qui « Pardon, excuse-moi, non mais c'était pas moi, je t'aime, t'es la chose la plus importante du monde ». En fait, il y a un rapport hyper...
Ça sonne là, Tamara. Ouais. Ouais. Il a de la violence en lui aussi. Et à cet endroit-là, elle s'exprime. Cette violence-là. Et elle est assez terrible. D'ailleurs, elle lui dit, si tu recommences, je te tue.
Elle a raison.
Mais oui, après, le mari... Le mari, moi, c'est un personnage...
Le mari, il est au début du bouquin, il est plutôt assez sympa. Bon, il est en train de grimper parce que son bouquin va être pris, etc., etc. Et très rapidement, il devient moins sympathique que tout au début. Ouais. Et puis, oui, elle devient... elle plonge dans un truc...
Moi, je trouve que, justement, il devient... Parce qu'il faut la supporter quand même. On va pas raconter le livre et tout, mais tout ce qui se passe, mais il faut quand même.
Non, elle est insupportable.
Il l'aime quand même pour tenir.
Elle est
insupportable. Pour supporter ce que.
Non,
j'aime aussi. Mais elle est. Faut tenir le coup, quoi. Donc le mari,
elle
est super
complaisante avec elle-même. Elle est insupportable. Ton personnage principal est méga insupportable. Hein.
Merci de parler aussi bien de mon livre.
C'est pas toi.
Tu donnes vraiment envie de le lire.
Ah oui,
parce que le mari est un gros connard, le personnage principal est insupportable.
C'est ça qui est génial dans le bouquin, c'est que on lit pas un livre pour avoir un personnage sympa.
Elle est
c'est justement ça qui est rigolo.
Elle est spé, après elle est
et puis en plus le livre, je sais pas si t'as saisi j'imagine que tu le sais quand t'écris, mais il y a plein de trucs hyper marrants dans le livre.
Il paraît que quand on lit, on peut se marrer. Oui. Moi, il y avait des passages où je rigolais quand même. Quand elle part dans ces trucs.
J'imagine que. Il y a le petit Nicolas, il va lire un extrait tout à l'heure du bouquin, qui a un passage qui m'a fait vraiment rigoler. Mais
tu dis que tu la trouves insupportable, mais moi, je pense qu'en fait, elle parle à plein de gens.
Ah, j'imagine, bien sûr.
Elle est extrêmement entière et ouais, elle est branque, mais elle est pleine d'amour, quoi.
Oui, elle est branque. Ton personnage, elle avance, elle se retrouve avec sa belle famille. La belle famille essaie d'être sympa avec elle, etc. Mais elle est quand même barrée bien, je veux pas bouffer de viande, etc. Et elle commence à devenir. Elle est un peu tyrannique, quoi. C'est ça, quand je dis elle est insupportable. C'est que le mec, son beau-père, il dit j'ai fait une foie gras. Je l'ai fait moi-même. Bon, il sort des conneries autour de la viande, autour de ceci, sachant qu'elle est végane. Il est lourdingue, ça, je te l'accorde. Mais elle a une réaction disproportionnée par rapport au fait que
Là, c'est ça. Là, elle commence à briller.
Bon, t'es d'accord que tu mets en scène un personnage qui devient vite un peu insupportable.
C'est là où je commence à... Mais insupportable, c'est pas le bon mot. Il faut trouver un autre mot qu'insupportable. Vas-y. C'est flippant, peut-être. Elle est dingue. Mais insupportable, non, parce que... insupportable avec quelque chose qui t'horripile ou qui te...
C'est
pas insupportable. Elle devient grinçante, flippante. Enfin, un peu, genre, on se dit, wow, où est-ce qu'elle va, là, en fait. Et c'est là qu'elle franchit la limite, ouais,
commence à vriller. Bon, alors, donc il y a déjà tous les passages dans la belle famille. Je sais pas si toi t'as fait
j'aime les beaux parents, hein, je sais pas si c'est cool.
Ah oui, il y a oui, parce que j'imagine qu'en lisant ça, quand tu mets une base qui est un petit peu autobiographique, c'est ce que tu racontais tout à l'heure. Ton entourage va dire mais
c'est clair que c'est pas eux là pour le coup, ils savent, donc ils pouvaient pas trop se reconnaître dans le sujet, donc non là pour le coup. Mais par contre
non, parce que t'as raconté dans des entretiens antérieurs que des membres de ta famille te disaient dis donc, tu nous épargnes guère. Et effectivement, quand tu parles de quand l'héroïne parle de son père ou de sa mère, parle de son père ou de sa mère, il les égratigne pas mal.
C'est le premier livre, le premier roman où je m'éloigne, je sors de moi. C'est plus, il y a plus mes parents, je suis plus là en fait. Il y a juste Penny. Et l'amour pour le mari, quand même, est quand même assez proche de ce que je peux ressentir, quand même.
Bon, on va faire une pause musicale. On va écouter un chien qui hurle. Est-ce que c'est ton chien qui hurle? On va écouter Pink Floyd. Ils ont enregistré à côté de leur chien, et le chien aboie pendant qu'il joue. On l'écoute, c'est
si. Bah, je veux bien écouter, ouais, je vois pas la.
Shameless, that's the dog who's outside. Well, I was in the kitchen. Shameless, my house outside. Well, the sun sinks slowly. Sat right down and cried.
Bulle noire avec Loulou Robert. On va lire un extrait justement de ton dernier roman, Des humaines, Loulou. C'est un passage qui m'a fait plutôt rigoler, il faut le dire. C'est ton personnage qui, elle part quand même un peu en sucette. Elle adopte toujours des animaux au refuge et ils ont tous un problème. Elle adopte un cochon qui a été tatoué, un lapin à qui un gamin a coupé un bout d'oreille et elle a envie de tuer le gamin, évidemment, parce qu'elle devient, on va en parler juste après l'extrait, mais elle devient quand même très rapidement meurtrière. Elle adopte une souris, elle a déjà son chien, une tortue.
Un chat à trois pattes. Une tortue à la carapace brûlée.
Une tortue. Et tous ces animaux ont un petit problème. Et un jour, ami auditeur de Bulle Noire, j'espère que tu as bien entendu et bien écouté la liste que je viens de faire des animaux que le personnage principal a adopté, ou en tout cas a recueilli. Et il se trouve que l'évier est bouché à un moment donné.
La souris.
Et donc, mais elle ne le dit pas. Oh là là.
Non, mais je vois le passage.
Non, mais ça y est, spoil.
J'ai rien dit.
Donc son évier est bouché, elle met du desktop. Desktop Plus, Desktop Destroy,
parce
Desktop
qu'elle a un peu machin. Aussi,
ouais. Elle met tout un tas de trucs, de produits. Elle essaie de. Elle joue de la ventouse, pa, pour essayer de déboucher son évier. Rien n'y fait. Elle est cinglée. Elle dit bah, c'est mort, je vais faire venir un plombier.
Un plombier, ouais.
Extrait.
9h, sonnette. Bonjour madame. Je le conduis à la cuisine, Penny à bois. Le plombier se fige, il a peur des chiens, me demande si je peux le faire sortir. Je localise sa carotide. Il remarque sous la table lapin apeuré, à qui il manque une oreille, tortue et sa carapace cramée sur sa salade. Il fait un pas en arrière et marche sur la queue de vieux chat à trois pattes. Il pousse un petit cri, puis un juron, baisse ses yeux et sort son furet. Fascinant. Une longue tige s'introduit dans la tuyauterie, magnifique. Une minute, et là, magie, joie, explosion, gratitude infinie, l'eau coule, disparaît. Je le remercie, lui propose un verre de grenadine. Qu'est-ce qui peut résister à 3 bouteilles de desktop ? Il rit, se détend, explique qu'il y a plusieurs explications, mais qu'à son avis, c'est une souris. Pardon ? Oui, ça arrive souvent. Je n'entends pas la fin. Je m'écroule. Acouphène, souris, quelque part, souris, dans le tuyau, souris, veut remonter mais ne peut pas, souris m'appelle, souris bouchon, desktop, turbo, souris brûle, desktop, gel, j'ai mal. J'ai mal, je pleure, je crie, je tape, souris bouillie, souris charpie, souris compote, j'appelle, souris penny, cherche, souris cherche. Le plombier s'enfuit. J'en oublie sa carotide, je suis avec souris, le reste n'existe plus. Je vide tous les placards, je supplie, souris, ma belle, souris, pitié, pardon, pardon, dernière bouteille de desktop. Maman disait, faut vraiment le vouloir pour avaler une bouteille de desktop, ou alors, il faut avoir tué souris. Je dis à Penny, va à la chambre bébé, mais Penny reste. Elle pose son museau sur mon genou, je fonds, je deviens sol, je répands mon eau sur le carrelage, je murmure, souris, pardon, souris, bouillie, souris, charpie, souris, compote. Penny, blottie contre mon ventre, vue sur la gazinière, poussière, souris bouillie, souris charpie, souris compote, 3 litres de desktop sur 20 grammes de souris, les poils, la peau, la chair, les os, bouillasse de souris, les heures défilent au rythme des années, de l'éternité. J'ai tué souris, j'ai tué l'innocence, ma famille, j'ai une petite masse. Dans la poussière, la petite masse bouge, la petite masse se rapproche, la petite masse a 2 oreilles, un museau de souris, 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 ma belle, ma reine, souris de la poussière, souris sous la gazinière, souris pas bouillie, souris pas pelée, mais avec des poils et une queue, souris en vie, croûte de fromage, vite, vite, pardon ma souris, plus jamais de desktop, c'est promis. J'entends la voix de mon mari, je jette les bouteilles de desktop, replace sa cafetière et sa tasse dans l'évier. Il m'embrasse, me demande « C'est quoi ce bordel ?» Rien, je fais du tri. Il remarque sa tasse et sa cafetière sale dans l'évier. Je lui offre mon plus beau sourire et je vais me doucher.
Voilà, bon ça... C'est le, je pense que c'est la séquence la plus drôle du roman. Ouais, je pense. Ouais, on t'a un peu spoilé, hein.
Bah, bon. J'ai juste dit souris. Ah, j'ai dit bah oui, c'est passage souris. Mais j'ai pas dit, j'ai rien dit. C'est... Mais oui, oui, c'est passage souris. Ah oui, je me suis, j'ai beaucoup rigolé. Ce qui me faisait marrer quand je pensais au, quand j'écrivais, c'était le plombier. Moi, quand je l'imaginais arriver. Et qui, lui, qui a peur des, ce qu'il a peur des chiens, en plus, ouais. Et il marche, je l'imaginais voir la tortue cramée, après marcher sur le chat à 4 pattes, 3 pattes, enfin, et ça me faisait beaucoup rire. Et donc, oui, j'ai rigolé en écrivant ce passage, et je me suis laissé emporter par la folie.
Bon, il y a un truc sur ton personnage. D'ailleurs, j'ai lu un entretien où tu disais que tu avais un petit peu corrigé, que tu avais essayé de raccrocher un petit peu les wagons. C'est que dans le fond, ton personnage, on comprend que elle assassine les gens qui sont, ou en tout cas qu'elle a envie d'assassiner quand elle les assassine pas, les gens qui sont, qui se comportent pas bien avec les animaux.
Ouais, il y a toujours une justification pour
elle. Mais il y a deux éléments, enfin, il y a un élément où tu as un petit peu corrigé les choses, mais il y a deux meurtres que commet le personnage qui sont pas reliés, qui sont liés au problème que le personnage a, mais qui sont pas liés aux animaux.
Tu veux dire le mec à la...
Bah, le premier mec dont elle veut, elle est tellement mal que... Enfin bon, je sais pas, on va pas raconter l'histoire, mais elle tue un premier mec qui était là sous un abri.
Ah oui, pour ressentir. Oui, oui.
Voilà, c'est pour ressentir, pour voir si elle est en vie.
Et ben ça, c'est parce qu'en fait, oui, oui, ben...
Bah là, c'est déconnecté du personnage.
C'est le premier vrai... meurt, enfin en tout cas c'est là où elle va capter qu'elle a besoin de tuer, quoi. Donc elle a besoin de ressentir.
Qui est déconnectée de la cause animale.
Oui, complètement.
Non, et après, d'ailleurs, tu dis toi-même...
Elle dit, tuer, c'est plus fort qu'écrire. Enfin, il y a un côté... et c'est ça, là, c'est cet aspect-là. C'est tuer, c'est plus fort
donc,
qu'écrire.
Donc, finalement, le truc de la cause animale devient, après, une espèce de prétexte qu'elle s'invente.
Puisqu'en non, fait, elle
a envie de tuer, tout simplement.
Elle n'a pas envie de... ce meurtre-là, c'est... Elle est complètement désespérée. Il est arrivé ce qui est arrivé, on ne va pas tout raconter. Elle sépare entre la réalité, entre le... et en fait, elle a besoin de se faire du mal. Donc, elle part comme ça. Et en fait, elle va aller chercher ce mec-là pour se faire du mal. Et ça tourne au meurtre. Mais donc, oui, ça tourne mal. Mais elle va prendre du plaisir à ça. Et après, non, il y a un vrai sens avec les animaux. Et l'autre, si tu parles du mec de la salle de sport.
Oui.
Il y a un sens avec les animaux.
Oui, mais ça, c'est parce que tu as eu l'entretien après.
J'ai retravaillé.
T'as raconté
j'ai retravaillé.
Pourquoi il avait
retravaillé. Oui, mais ça, c'est le travail d'un écrivain, en fait. Enfin, je crois. C'est de... forcément, oui, à la base, elle le tuait pour des raisons où moi, Loulou Robert, j'aurais tué le gars. Et je me suis dit, non, c'est pas cohérent, en fait. C'est pas cohérent, ça va pas avec le personnage. Et en fait, oui, j'ai retravaillé. Et je l'ai rendu... c'est pour ça que je dis que je me suis gommée vraiment à plusieurs endroits dans ce livre. Pour que non en fait le personnage est cohérent dans cette dans sa folie hein, parce qu'elle est pour plein de gens elle est mais pour moi elle est cohérente en tout cas donc le seul où
le seul meurtre qui
n'est pas c'est
qui est gratuit par rapport à sa dimension c'est le mec
qui est gratuit qui mais c'est là où elle prend c'est un moment très important où c'est là où elle prend conscience qu'elle va tuer enfin voilà qu'elle va tuer hein, elle va devenir une tueuse.
Bon on va faire une pause musicale parce que je voudrais qu'on écoute puisqu'on a parlé de souris j'aimerais qu'on écoute Charlie Schlingo qui chante j'ai peur des souris. Tu connais Charlie Schlingo?
Non.
C'est un auteur de bande dessinée qui est décédé aujourd'hui, mais qui chantait dans un groupe qui s'appelait les Silver d'Argent, et il chante « J'ai peur des souris », et je suis sûr que ça va t'amuser, cette petite chanson.
D'accord.
Radio Libertaire 89.4 avec Loulou Robert qui vient de publier aux éditions Gallimard des Humaines. Ton personnage donc devient un petit peu barjot à force d'être frustré de ne pas réussir à écrire et elle se dit bon bah finalement de tuer c'est mieux que d'écrire et donc elle commence. Évidemment, il y a une dimension végane, puisqu'elle dit « tous les salauds, tous les gens qui se comportent mal avec les animaux, je vais en faire mon affaire », c'est ce qui se passe. Et il y a un truc qui me... je me suis dit, mais elle a dû regarder sur Internet tout un tas de trucs. Par exemple, le cochon qui a un QI d'enfant de 5 ans. Mmh. Et après, d'ailleurs, à un moment donné, ton héroïne demande à un boucher « alors !» Le cochon, il a un QI d'enfant de 3 ans, elle fait un quiz. Bon, bah, le mec répond mal, elle le flingue.
Je peux pas dire.
Bah, t'as dit pour le re, la souris tout à l'heure avant qu'on lise l'extrait. Alors là, maintenant, j'ai le droit. Et donc, c'est vrai que tu t'es, tu t'es plongé, enfin, le personnage, tu t'es plongé.
J'étais moi-même assez documentée sur le sujet. Vu que c'est un sujet qui me tient à cœur, donc oui, donc du coup naturellement, oui, c'est venu. J'ai parlé de ça et j'ai, mais c'est vraiment quand je dis que c'est un sujet. Là, j'ai fait un podcast qui s'appelle Anima sur la cause Anima. Enfin voilà, c'est vraiment c'est important pour moi. Et donc évidemment que ça a jailli et donc j'ai même pas eu besoin de me documenter tout ça. Je le savais déjà de. Et donc oui, le cochon a le cuit d'un enfant de 5 ans.
Bon, tu dirais que c'est un roman d'amour ou d'humour?
D'amour. Mais il y a de l'humour dedans.
Il y a de l'humour. Un roman d'amour avec des morceaux d'humour.
Un roman absolu, c'était bien quand tu as une quête d'absolu. Ouais, quête d'absolu.
Et le. Alors, il y a. Par rapport justement à la famille, on en a parlé tout à l'heure sur le père et la mère de l'héroïne, les beaux-parents de l'héroïne, la fuite. Ton mari, parce que c'est mon mari, qui ressemble quand même un petit peu à ton mari actuel. Est-ce que, à la lecture du livre, il t'a fait une réflexion en disant, ben dis donc, il y a un petit peu de moi, là, parce que là, je me suis un petit peu reconnu à ce moment-là.
Pas du tout. Il a.
Il s'est jamais reconnu.
Bah. Il me connaît tellement qu'au début, oui, quand et je joue avec ça sur le fait le café au lait, la différence d'âge, mais c'est évidemment au contraire, il était très ému parce qu'il y a des passages où elle dit tout l'amour comme elle l'aime en fait, elle l'aime vraiment.
Pour le personnage.
Ouais,
dire.
Elle l'aime vraiment, donc c'est assez. Mais non, pas une seule seconde. Puis en fait, il est lui-même écrivain, donc il sait ce que c'est qu'écrire un livre. D'accord. Et il sait ce que c'est que. Qu'inventer en
donc
fait. S'il y a bien une personne pour comprendre que c'est pas lui et que faut pas se. C'est bien.
Mais quand même, quand il a fait à lui. Quand il t'a pas dit. Non, mais je me souviens quand même, il y avait ce danseur là qui était là.
Non, dans ça la c'est boucle. Complètement inventé. En plus, ça c'est clairement inventé.
Là, c'est pour ma merde.
Le danseur, c'était un besoin de respiration aussi dans le livre. J'avais besoin de respiration. J'avais besoin d'autre chose. Donc c'était une bulle d'air.
Le truc du refuge où son personnage, il récolte toujours des mais ça pourrait être vrai. Hein,
non, fait. J'ai pas de ménagerie chez moi. Mais
je veux dire les gens où tu vas récupérer les refuges, ouais. Où tu récupères des animaux qui ont été maltraités. Là, pour le coup, il y a un truc de vérité parce qu'effectivement, tu pourrais avoir un cochon dont le propriétaire que le propriétaire a tatoué, etc. etc. Ça pourrait exister.
Ça pourrait exister et ça serait peut-être un futur possible pour moi d'avoir un refuge. C'est pas impossible qu'un jour ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, j'ai qu'un chien, donc mais oui, là c'est plus de l'ordre du fantasme et de l'absurde aussi. Parce que dans un petit appartement, avoir un cochon, une tortue, un chat, un lapin,
ça,
une
rigolo.
Souris, un chien dans un appartement quand même assez petit, c'est pas possible quoi.
Il y a un truc sur l'amour, mais que l'autre te devrait. Enfin, il y a un rapport assez singulier que ton personnage raconte sur l'amour qu'elle devrait recevoir, l'amour fou, cette espèce de. On en parlait d'absolu, de. Mais le personnage, dans le fond, on a le sentiment que il veut beaucoup, il veut recevoir beaucoup. On ne sait pas s'il donne beaucoup.
Elle donne beaucoup.
Est-ce que c'est ça,
elle donne beaucoup aux animaux.
Elle donne beaucoup aux animaux, mais à l'humain et en l'occurrence.
Le livre s'appelle Des humaines.
Hein. Ouais.
Donc.
Bon, c'est quoi tu vas devoir nous quitter parce que tu as ton train à prendre.
Ouais.
C'est quoi la suite des opérations pour le Robert?
Je viens de finir d'écrire un texte là, qui est fini. Donc. Il sortira. Je sais pas encore exactement quand, mais. Ça va être encore bien. Bien.
Parce que là, t'es passé chez Gallimard. Tu ne nous as pas raconté ton passage chez Gallimard d'ailleurs.
Non, c'est vrai. Bah, je suis passé chez Gallimard et je compte bien rester.
Mais ça s'est passé comment
Plutôt bien. Bah oui, la décision de changer d'éditeur, ça a été. Ça a été pas facile, non. Mais j'ai enfin trouvé mon éditeur Jean-Marie Laclaftine. J'ai enfin trouvé. J'ai eu avant ça des super éditeurs, hein, Bernard Barrault et Betty Mialet. ça s'est très bien passé, mais là, j'ai trouvé quelqu'un qui me correspond, qui parle la langue que je parle aujourd'hui, qui comprend ma folie, qui a compris. Il a vraiment compris le texte, quoi. Et ça, ça fait du bien, quoi. Il a compris la folie du personnage, il m'a poussé à aller plus loin. En dehors de Gallimard, qui est certes une très belle maison, j'ai surtout un éditeur là-bas et Anne Vijoux aussi qui est aussi mon. Enfin, il y a une belle équipe, mon attaché de presse. Enfin, il y a une belle équipe qui m'entoure et c'est ça surtout. Et donc ça, c'est chouette, quoi. Mais ça a été pas facile, le passage. C'est pas un milieu simple, quand même.
Ah bah oui. Non, depuis le temps que t'es dans ce milieu, quand même,
j'ai eu reconfirmation.
D'accord. Il y a ton personnage qui dit à un moment donné, je ne sais plus si cette histoire est vraie. Mm. Est-ce que tu sais si toute cette histoire est vraie?
Je sais que là je suis en train de faire une émission de radio et pas en prison ou pas donc ça veut bien dire
pas,
mais il y a une vérité et peut-être dans une autre réalité cette histoire
nous sommes peut-être dans une autre réalité
dans un épisode de Black Mirror.
Exactement. Bon, merci infiniment d'être venu nous rejoindre, Loulou Robert. Alors on va lire juste pendant que tu vas t'en aller, le petit Nicolas va lire un extrait, qui est l'extrait quand vous retrouvez chez une libraire. Mais ça, en Charlotte. Fait, tu dis, ouais, mais ça, j'ai inventé le personnage, etc. T'as une copine quand même qui est libraire. Et c'est vrai que le monde, j'ai aussi bien des bibliothécaires que des libraires.
Mais mon ami libraire ne ressemble pas du tout à celle-là.
D'accord, mais ils ont quand même un côté un peu groupi. C'est vrai,
il y en a.
Vas-y. Non, mais je te parle
pas. Vous allez lire et vous allez voir le.
Alors voilà, et on va lire l'extrait. Ce que tu racontes quand même dans ce chapitre-là, c'est quelque chose que tu as plus ou moins vécu, mais pas.
Tu veux vraiment savoir ce qui est vrai? Tu fais comme tout le monde.
Ce passage-là uniquement. Parce qu'évidemment, tu es autrice, donc c'est un
j'ai
truc.
J'ai exagéré, mais.
À peine. Franchement, parce que moi, j'en ai connu des gens comme ça. Donc, c'est pour ça que je te pose la question, mais je connais la réponse. Des gens comme ça ou des bibliothécaires qui sont des dingos et qui sont des groupies. C'est comme si c'était des stars de rock. Ça fonctionne pareil. Tu vas pas dire le contraire.
Non, bien sûr, ça existe.
Bon, merci infiniment, Loulou Robert.
Merci
et à la prochaine,
et
pour ton prochain bouquin. Tu vas voir, ça va être la lecture.
On est passé à la librairie avant de poser nos affaires à l'hôtel. La libraire s'appelle Charlotte. Elle est minuscule, elle a le visage rond, une bouche en cœur, une forte poitrine, beaucoup d'humour, d'après mon mari. Elle pourrait lui plaire, il adore les petites rigolotes. Tout ce que je ne suis pas. Elle a encensé son roman sur les réseaux sociaux, elle a collé un cœur sur la couverture, a posté la photo sur un mur. Elle n'a lu aucun de mes romans, sans excuse, avant de recommencer à parler à mon mari. Sa petite langue, je lui arracherai bien, je la donnerai bien manger à Penny, mais Penny n'aime pas la viande crue. Ils discutent comme ça pendant près d'une heure, sans se soucier de moi, elle touche 5 fois le bras de mon mari. Je dessine un morceau de salade entre ses incisives centrales et latérales. Je finis par m'asseoir par terre, dans un coin de la librairie, Penny et Lapin, dans la cage devant moi. J'écoute, adossé au rayon des R et des S, la conversation. Je me sens jeune dans mon ennui. Charlotte félicite mon mari. Elle croisera les doigts pour les prix littéraires. Avant, je serais sorti pour dissimuler le feu dans mon ventre. Je constate avec indifférence, je ne m'en inquiète pas. Mon mari énumère les rencontres en librairie à venir. Un papier dans le monde des livres, un autre dans Elle, une colonne dans le Figaro, 8 chroniques sur les blogs littéraires, 2 minutes dans Le Masque et la Plume, des adjectifs comme jouissif, brillant, prodigieux, 2 plateaux télévisés se battent pour l'exclusivité, des salons littéraires aux 4 coins de la France, une traduction en italien, la version poche signée sur la liste de 2 prix littéraires, une première réimpression, l'éditeur dit que ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Cette phrase résonne en moi.
Voilà, c'était un extrait chez un libraire, ou une libraire plutôt, un extrait du dernier roman de Loulou Robert. On fait une pause musicale, alors on reste justement dans l'univers de Loulou Robert, avec un chien chanté par Mac DeMarco, This Old Dog, le chien qui est qui est témoin de l'histoire amoureuse de l'aventure de Mac DeMarco, en tout cas du chanteur, et qui note tout, puisque le chien est non pas des humains, mais finalement un peu humain.
Sometimes my love may be put on hold. Sometimes my heart may seem awful cold. These times come and these times go. As long as I live, all you need to know is it's so dark, ain't about to forget. Often a heart tends to change its mind. New day decides on a new design. A new day gets set on another way. As long as I live, all I've got to say is it's so dark, ain't about to forget. All we've had and all that's next. Long as my heart's beating in my so dark, ain't about to forget.
Takotsubo, syndrome du cœur brisé. Ce matin à la radio, une femme de 36 ans est morte du Takotsubo. J'ai trouvé que c'était très beau. Mourir d'amour. J'ai vu la femme s'arracher l'organe de la poitrine, le jeter dans l'eau. J'ai vu le cœur flotter avec les feuilles. Viens là, bébé. Les deux pattes sur mon épaule, Penny me lave le visage avec sa langue. Ça dégoûte mon mari. Moi, ce qui me dégoûte, ce sont les gens. C'est ce qu'ils font aux autres gens, aux animaux, aux arbres. Et ce qui me sauve, c'est ma chienne. On est bien. Allongé dans l'herbe. Il commence à pleuvoir. Les poils du dos de Penny se dressent. À quelques mètres, une silhouette. Sage bébé, sage. Elle part en sprint. J'ai été surprise la première fois que je l'ai entendue aboyer. Entre le cochon qu'on égorge et le méchant gremlin, celui avec la crête blanche. Ne jamais les nourrir après minuit, ne jamais les mouiller. Avec Penny, il y a également quelques règles à suivre. Ne pas s'approcher de sa mère, ne pas porter de chapeau, de capuche, de casquette, de lunettes de soleil, ne pas la caresser sans son consentement, ne pas lui renifler le cul, ne pas être de sexe masculin, ne pas la coincer contre un mur, ne pas lui donner de la viande crue. La silhouette est un garçon. Il retire sa capuche, il a le crâne rasé, une tête d'enfant posée sur un grand corps. Il a les lèvres gercées, il a une fossette sur la joue droite, il a les yeux gris. Il me demande si j'accepterai de marcher avec lui jusqu'au bout de l'île Simon. Le garçon me dit qu'il est danseur, qu'il est en résidence pour une compagnie, pour 2 mois, qu'il a un spectacle ce week-end dans une salle quelque part. Il me dit que danser, c'est comme parler, marcher, respirer. Que danser, c'est voler, c'est renaître. C'est ressentir le corps, c'est oublier, c'est disparaître, c'est le feu. Il me montre un mouvement avec son bras. Quand il danse, il doit être beau. Il doit être pur. Dans le silence qui suit, je l'imagine danser sur l'eau. Danser, c'est mieux que garçon. Au bout de l'île, danseur me dit qu'il a 18 ans. À 18 ans, je ne faisais rien de mes journées, rien de mon corps. J'étais pleine de tristesse et je ne pleurais jamais assez. Il me dit que la danse lui permet de s'exprimer. Pour s'exprimer, il faut avoir quelque chose à raconter. À 18 ans, je n'étais pas prête à raconter. Danseur me dit qu'il a envie de me revoir. J'ai envie de renifler sa nuque. J'ai envie de danser avec lui. Peut-être parce que je me sens seule. Qu'à 18 ans, je me destinais à avaler une bouteille d'eau de Javel. Qu'à 18 ans, je ne pensais pas qu'un jour j'en aurais 30, que je vivrais marié, en province, avec une balle en caoutchouc dans la poche. Peut-être que j'ai besoin qu'il se passe un truc. Un truc sans monstre, ni colère. Un truc qui m'éloigne de l'obscurité, un truc léger, sans bruit. Un truc sans image, un truc de corps. Peut-être parce que sur les mains de mon mari, de petites taches brunes apparaissent, que lui, ses mains ont gardé de l'enfance, que je les imagine sur mes joues. Je ressens quelque chose dans le bas de mon ventre. Peut-être que Takatsubo, j'aimerais, moi aussi, mourir d'amour. Je lui demande son numéro. Je ne lui donne pas le mien. À la maison, mon mari tape sur les touches de son ordinateur. Il est 19h, je lui sers un verre de vin rouge, vide un sachet de noix de cajou dans le bol en céramique acheté chez un petit artisan en Bretagne et lui dépose sur son bureau. Il expire la fumée de sa cigarette, les cendres tombent sur le clavier, il me remercie, je reste quelques instants à le regarder et c'est mon cœur que j'arrache de ma poitrine et dépose sur son bureau. Il ne le voit pas, continue de taper. Takotsubo, on dirait le nom d'un guerrier.
Une noire 89.4 sur Radio Libertaire. On vient, le petit Nicolas vient de lire un extrait du roman de Loulou Robert qui vient de nous quitter parce qu'elle a un train à prendre pour retourner dans sa province. On va écouter un titre qui correspond au bouquin d'ailleurs parce que évidemment quand on a un chien, on passe pas mal de temps à le promener. Hein. C'est quoi ? Tu dirais la même chose, Nicolas, mais t'as pas de chien, toi.
Oui, et je connais des gens qui laissent leur chien sur le balcon pour qu'il pisse à l'extérieur et chie sur celui d'à côté.
Bon, ouais, d'accord. Bon, on va écouter Ramon Pipin, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah tiens, un habitué d'ici.
Je promène le chien et après, justement, on va raconter un petit peu, on va dire un petit peu les dates qu'il y a, parce que la semaine prochaine, il est en concert, le Ramon Pipin.
C'est un rituel qui me convient. Ne penser à rien et promener le chien.
Voilà, c'était Je promène le chien, c'était notre ami Ramon Pipin. Alors Ramon Pipin, dis-moi Nicolas, il est en concert bientôt ?
Ramon Pipin avec les excellents, avec une majuscule à excellent. Il sera au Café de la Danse, avec majuscule à café et à danse aussi. On va faire une dictée là bientôt, pour massacrer amoureusement les classiques pop et rock, avec leurs instruments improbables. Et Ramon n'est pas tout seul. Il est avec un quatuor qui s'appelle joliment Chlamydia et avec les Levallois Horns. Donc rendez-vous pour une soirée délirante, ça c'est ce qui est écrit en toutes lettres. Donc on rappelle 13 et 14 mai, ça amène quel jour de la semaine ça, le 13 et le 14?
Ah, je pense que c'est mardi et mercredi, non?
Ben ça doit être ça, oui.
Mardi et mercredi prochain. Donc Ramon Pipin, si vous voulez aller le voir, si vous voulez, je ne sais pas s'il va interpréter Je promène le chien, mais en tout cas, il va interpréter différents titres. La dernière fois que j'ai vu Ramon Pipin, c'était d'ailleurs extra, c'était avec tout un tas d'instruments un peu improbables, des ukulélés, différentes choses, et ils ont fait l'album Revolver des Beatles en entier. Alors t'imagines, Nicolas, comme j'étais heureux, hein? Alors quand même, c'était un petit foufou, quoi.
Ah, bon. Tu aurais voulu être sur scène aussi. Hein.
Enfin, oui. Oh, je ne sais pas trop. D'ailleurs, finalement, je ne sais pas si j'avais envie d'être sur scène. On va faire une pause musicale. On va écouter alors une jeune femme qui s'appelle Minnie Riperton, qui est morte très jeune. Elle est morte à... Elle avait pas l'âge de notre invitée tout à l'heure, elle était plus jeune, je crois qu'elle avait 31 ans. C'était une jeune chanteuse qui était incroyable. Elle était réceptionniste chez Chess Records, et donc la grande maison de jazz américaine. Et tout d'un coup, elle s'est retrouvée, on lui a proposé de chanter comme choriste sur différents titres. Et puis, au fur et à mesure, elle a fait une carrière solo. Elle couvrait 5 octaves. C'était une chanteuse incroyable. Quand tu vois, quand on imagine qu'elle a été choriste de tout un tas de zozo et qu'il a fallu un certain temps avant qu'elle fasse des albums solo, on se dit, la concurrence est rude. On va écouter un titre du premier album de Minnie Riperton. Et ce titre s'appelle Les Fleurs. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que le titre Les Fleurs en anglais, c'est Les Fleurs, mais il n'y a pas de S. Alors, je sais pas, comme quoi les Américains, ils savent pas très bien écrire le français, hein, franchement.
Moi, j'ai la copie de la pochette, là, c'est Les Fleurs and Others Favorites. Il y a un S.
Eh bien, écoute, dans la fiche Wikipédia du personnage, il n'y a pas de S. Comme quoi...
Bring all the bells, ring it, bell, the people that you wear, that the
Voilà, c'était Les Fleurs, Mini Riperton. Le titre a d'ailleurs été repris par un groupe récemment avec une version qui fait 12 minutes 30, un truc comme ça. Mini Riperton, dont il y a l'un des titres d'ailleurs extrêmement connu de Mini Riperton, je crois que c'est Loving You, qui a été repris partout. Et comme Loving You, elle venait d'avoir sa fille quand elle a enregistré Loving You, sa fille qui s'appelle Maya et qui a été d'ailleurs une jeune comédienne qui travaille dans le Saturday Night Live américain. Et à la fin de Loving You, qui est un titre, si on vous le diffuse, je ne sais pas si le petit Nicolas va vous le chercher ou vous le trouver, si on vous le diffuse, c'est un titre que tout le monde connaît forcément. Et à la fin du titre, elle chante Maya, 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 elle prononce le nom de sa fille qui était en bas âge, qui venait quasiment de naître, en tout cas, qui était toute petite quand elle a enregistré le truc. Je ne sais pas, Loving You, tu l'as trouvé de Mini Riperton? Bah tiens, justement, on va l'écouter, Mini Riperton, elle a une voix tellement sublime, cette...
Easy, cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do is out of love and you.
Bulle noire à de l'heure. Bulle noire, je la refais. Bulle noire à de Liberté 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Eh bien, on vient d'écouter la magnifique Mini Riperton. Et vous avez entendu, comme je vous l'avais annoncé, Maya, 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 à la fin du titre. Comme quoi, je ne dis pas que des conneries, n'est-ce pas, Nicolas?
Oui, oui, oui.
Merci. Bon, eh bien, on se quitte, on arrive au terme de cette émission.
Mais t'en écris pour les autres dans le feuilleton. Hein.
Pardon?
Mais t'en écris pour les autres dans le feuilleton.
Ouais, c'est vrai, on ne peut pas lutter. Bon, on se retrouve avec... enfin, on vous laisse d'ailleurs avec la Tribuna Latino-Americana, n'est-ce pas? C'est ça? Est-ce que tu peux chanter le générique de la Tribuna
Non, voilà. Non, le générique est sur clé, je vais le diffuser après quelques mesures quand même aussi du générique de Bulle Noire.
Ta-da-da, oui, mais moi, ta la 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 la